Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience.
Canal Sud, 92.2, bonjour tout le monde.
C'est contre-histoire.
On a peu parlé des techniques de maintien de l'ordre au-delà de nos frontières. Mais rassurez-vous, on se sent un peu moins seul au monde en vérifiant que les techniques de MO, comme disent pudiquement ceux qui les utilisent, sont un des fléaux les plus répandus sur la planète. Voilà ce qu'on peut trouver à l'ouest. Rien de nouveau, bien sûr. Standing Rock, une bouleversante contre-souveraineté, par Bernard Harcourt, professeur de droit et de sciences politiques à l'Université de Columbia. J'ai un peu malaxé, comme d'habitude, cet article, et surtout les interviews qui le suivent, pour des raisons radiophoniques évidentes, et j'espère ne trahir personne. Voilà donc l'article de Bernard Harcourt, daté du 2 juin 2021. Le 1er avril 2016 commençait le rassemblement de toutes les nations autochtones d'Amérique pour défendre la réserve des Sioux de Standing Rock, lieu mythique où avait été tué Sitting Bull en 1890. Rassemblement contre un pipeline dévastateur devant passer sur les terres sacrées de la tribu. Le plus important rassemblement indien depuis un siècle. Desiree Kane, la journaliste américaine qui a dénoncé les violences policières françaises en 2015 à Paris. Cette journaliste s'est beaucoup consacrée à rendre compte du sort réservé aux autochtones nord-américains. Voici son article à propos de la répression à Standing Rock. Des djihadistes! C'est ainsi que les agents de sécurité privés désignaient les hommes et femmes amérindiens rassemblés à Standing Rock pour empêcher l'oléoduc de profaner leurs terres. Ils ne se considéraient pas eux-mêmes comme manifestants. Ils se définissaient plutôt comme des protecteurs de l'eau. Majoritairement pacifiques, ils se rassemblaient dans des campements de Standing Rock venant de nations indigènes de tout le pays. Le 31 août 2016, au Dakota du Nord, les protecteurs de l'eau, dont le logo est NODAPL, No Dakota Access Pipeline, les protecteurs de l'eau venus aux côtés de la tribu Sioux de Standing Rock ont mené une action directe non violente en s'enchaînant à des engins de chantier. Mais pour Tiger Swan, la société de sécurité privée engagée pour protéger l'oléoduc Dakota Access, DAPL, ces hommes et femmes indigènes représentaient une insurrection motivée idéologiquement dans laquelle la religion occupe une place importante et qui suivait en général le modèle djihadiste d'insurrection. Dans ses échanges internes, Tiger Swan traitait les protecteurs de l'eau de terroristes, leurs actions d'attaque et leur campement de champs de bataille. Déployant les techniques classiques de la guerre moderne, Tiger Swan se mit à collecter un maximum d'informations sur les personnes réunies à Standing Rock, avec surveillance aérienne et contrôle de stations radio. Tiger Swan a infiltré les campements et les mouvements d'activistes, recueillant toutes les informations des réseaux sociaux. Rapports de situation, notes de renseignement quotidiennes s'accumulaient, ainsi que des listes de personnes sensibles et des collections de photos de manifestants, comme les numéros de plaques d'immatriculation des véhicules. Renseignements partagés avec les multiples organismes de sécurité, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'État. FBI en tête, police fédérale donc, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, Marshall Service, agence de police du gouvernement fédéral, bureau des affaires indiennes et service du procureur du Dakota du Nord, police locale et police d'État. Excusez du peu. Tiger Swan a ensuite déployé les tactiques classiques de la guerre moderne, pour essayer de diviser les défenseurs de l'eau, un rapport interne précise comment Tiger Swan a utilisé ses renseignements pour exploiter, d'une part, des failles entre Amérindiens et non-Amérindiens, et d'autre part, des failles parmi les Amérindiens entre éléments pacifiques et éléments violents, soulignant l'intérêt crucial de cet effort pour délégitimer le mouvement autochtone. Le magazine The Intercept pratique un journalisme d'investigation avec enquête sur la surveillance globale exercée par les États-Unis, en particulier les documents révélés par Edward Snowden. The Intercept aborde des problématiques plus vastes, abus, corruption financière et politique, violation des libertés civiles, etc. Et The Intercept a découvert que Tiger Swan invente et diffuse des informations critiques sur les manifestants de Standing Rock à travers les réseaux sociaux. Dans un rapport interne du 4 mai, un agent de Tiger Swan décrit l'effort déployé pour amasser des renseignements numériques et de terrain qui permettraient à la compagnie de trouver, régler et éliminer. Find, fix, and eliminate les oppositions au pipeline. Un inquiétant écho au trouver, régler, achever. Find, fix, finish. Terme militaire utilisé par les forces spéciales durant les actions criminelles du gouvernement contre des cibles terroristes. Tiger Swan établit des parallèles avec l'Afghanistan post-soviétique en préconisant la répression du mouvement à base de pratiques contre-insurrectionnelles. Alors que nous nous attendons à voir l'expansion continue de la diaspora anti-DAPL, une préparation agressive en termes de renseignement du champ de bataille et une coordination active entre les éléments de renseignement et de sécurité, sont désormais une méthode qui a fait ses preuves pour vaincre les insurrections face au pipeline. Et Tiger Swan prévient que les combattants pour le pipeline appliqueront un modèle post-insurrectionnel après l'effondrement de leur combat. Après l'effondrement, je dirais après la fin du combat, tout simplement, on peut dire. Des manifestants contre Donald Trump, contre le Dakota Access Pipeline, rassemblaient en janvier 2017 environ 3000 personnes à Minneapolis pour s'opposer à la politique de Trump concernant les femmes, les immigrants, les musulmans, les personnes LGBTQ, les travailleurs et l'environnement. La chronologie de la répression établie par The Intercept raconte de manière accablante comment la guerre moderne est utilisée contre les citoyens américains, ramenant sur le sol américain les mentalités, les techniques et les équipements de la guerre en Irak et en Afghanistan, hommes, femmes et technologies de la contre-insurrection. La société de sécurité privée Tiger Swan était dès le départ sous-traitante de l'armée américaine et du département d'État durant les premières phases de la guerre globale à la terreur, selon la formule trumpiste. Dans le même esprit que les programmes RAND au Vietnam, mercenaires fonctionnant selon les dogmes de la guerre moderne, mais transposés alors sur le sol américain. La répression est rapide et douloureuse. Imprégnée par des générations d'hostilité à l'encontre de la petite minorité indigène du Dakota du Nord et déterminée par le fort intérêt économique à voir la construction de ce pipeline, une force policière a employé une série de tactiques contre-insurrectionnelles graduées contre la tribu et ses soutiens. Finalement, des unités de police locales, étatiques, extra-étatiques et fédérales, y compris des troupes de la garde nationale, ont déployé une force hyper militarisée, avec équipements et armes militaires, canons à son, balles de caoutchouc pour écraser les défenseurs de l'eau. Cette réponse militarisée brutale au mouvement Standing Rock a été le résultat de mois de contrôle contre-insurrectionnel et a débouché sur une répression massive en novembre 2016, puis finalement sur l'évacuation des campements en février 2017. La police a tourné ses canons à eau contre les manifestants dans des températures glaciales. Tactique qui rappelle les pires jours de répression des mouvements pour les droits civiques à Birmingham, en Alabama. On se souvient, en 1963, l'usage massif de canons à eau et de chiens contre les manifestations non violentes d'enfants, qui avaient scandalisé l'opinion et marqué une victoire de la campagne contre la ségrégation de Martin Luther King. Arrestation massive par NAS et toute la gamme des armes soi-disant non létales ont été utilisées. Canons à son, gaz poivre, taser, armes de poing, gaz lacrymogène et toutes sortes de balles non létales comme des balles en caoutchouc. Une jeune femme, Sofia Wilanski, 21 ans, a été grièvement blessée par un projectile de police qui lui a arraché tous les muscles de son bras. Ce qui est arrivé à Standing Rock est une illustration exemplaire de la contre-révolution américaine. Depuis le 11 septembre, les États-Unis se sont tournés vers un modèle de contre-insurrection pour gouverner non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Contre-insurrection qui opère par une collecte maximale d'informations, le ciblage d'ennemis intérieurs imaginaires et la pacification de la population générale. Les trois stratégies centrales de la guerre non conventionnelle. Les États-Unis ont ramené à la maison les mentalités et les logiques, les techniques et les tactiques et tout l'équipement de la guerre en Irak et en Afghanistan. Le mouvement de Standing Rock s'est appuyé sur des décennies et même des siècles de résistance à une dépossession et une déshumanisation continue. Ou en reprenant les mots de Leanne Betasamo-Sake Simpson, historienne autochtone canadienne, sur 4 siècles de conquêtes, génocides, dépossessions massives, exploitation capitaliste sans limite, hétéropatriarchie, suprématie blanche et apocalypse environnementale. L'historien indigène Nick Estes souligne dans son étude du contexte des manifestations de Standing Rock que ce n'était pas la première fois que Standing Rock était le lieu d'une résistance anticoloniale. En 1974, à Standing Rock, un rassemblement de plusieurs milliers de personnes de plus de 90 nations amérindiennes a abouti à l'établissement du Conseil international des traités indiens. À Standing Rock, plus de 90 nations indiennes de toute la planète ont construit les fondations de ce qui est devenu 4 décennies d'action aux Nations Unies et les bases pour la déclaration de 1997 sur les droits des peuples indigènes, écrit Nick Estes. Le mouvement de Standing Rock était en même temps un soulèvement unique. Une histoire américaine de la lutte anticoloniale continue. Un campement qui fonctionnait comme une réinstallation. Un rassemblement de souverainetés multiples formant une contre-souveraineté. Une certaine spiritualité liée à la terre et à l'eau. Et constituant bien sûr la cible des stratégies contre-insurrectionnelles. Le rassemblement unique qui s'est tenu à Standing Rock était moins une occupation genre Occupy Wall Street ou Nuit debout qu'une refondation. En même temps, Standing Rock n'était pas qu'un rassemblement d'individus comme sur la place Tahrir ou le parc Zuccotti, mais une assemblée de nations soutenues par des personnes très diverses. Standing Rock a représenté un effort d'imaginer une contre-souveraineté, comme l'écrit Nick Estes, une bouleversante contre-souveraineté. Mais en dépit de ça, Standing Rock aura été traité comme une insurrection et attaqué avec les moyens de la contre-insurrection. S'il devait y avoir une parfaite illustration de la contre-révolution américaine, ce serait la répression à Standing Rock. Avec les attaques paramilitaires à l'égard des défenseurs du lieu par une police hyper militarisée, déployant des techniques contre-insurrectionnelles. Et en dépit de toute la violence d'État, une des seules conséquences légales de la violente répression du mouvement a été l'adoption de nouvelles lois anti-manifestation. La tragédie à Standing Rock n'est que surpassée aujourd'hui par la violence de ces nouvelles lois anti-manifestation. En ce qui concerne la nouvelle administration présidentielle, ses initiatives sont mitigées. Quelques heures après son intronisation, le président Joe Biden a bien annulé le permis pour le pipeline Keystone XL, accordé par Donald Trump. Le Keystone est un autre pipeline de près de 2000 km de long, conçu par un conglomérat canadien qui aurait transporté environ 132 millions de litres de pétrole brut des sables bitumineux de l'Alberta au Canada, à travers le Montana, le Dakota du Sud et le Nebraska, où il se serait raccordé à un pipeline Keystone existant pour délivrer le pétrole vers le golfe du Mexique. Mais ce 3 mai 2021, jour de la Terre, Joe Biden autorisait la poursuite de l'exploitation du DAPL Dakota Access Pipeline. C'était donc l'article de Bernard Harcourt, professeur de droit et de sciences politiques à l'Université de Columbia. Après Standing Rock, Michelle Cook, avocate de Diné, nom de sa nation indienne. On disait autrefois Navajo, mais le problème c'est que Navajo, ça appartient à la langue des colons espagnols. Alors maintenant on dit Diné, et ils ont bien raison. Alors Michelle Cook, avocate Diné, témoigne devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme en Jamaïque. Michelle Cook a témoigné avec Ophelia Rivas, qui témoignait sur la militarisation de la frontière, avec Casey Camp Horinek, membre du conseil tribal Ponca, sur les arrestations abusives à Standing Rock, et Leolia Cowboy, elle aussi Diné, épouse du protecteur de l'eau fait prisonnier Michael Little Fizer Giron, qui est Chumash, nation autochtone du sud californien. Michelle Cook est l'organisatrice de la délégation de femmes à la Commission en Jamaïque. Fondatrice de Désinvestir, Investir, Protéger, elle est membre de la Commission des droits de l'homme de la nation Diné et ex-fondatrice, ex-cofondatrice du collectif légal des protecteurs de l'eau à Standing Rock. En tant que diplômée du programme d'échange universitaire Fulbright, elle a étudié la culture maori en Nouvelle-Zélande, elle a participé en Iran à un programme d'échange culturel et en Bolivie à la conférence sur la terre-mer à Cochabamba en 2010, avant d'étudier le droit et la politique des peuples autochtones à l'université de Tucson en Arizona. Alors voilà le témoignage de Michelle Cook, présenté dans un article de Brenda Norell du magazine Censored News, magazine d'investigation américain à la devise suggestive « Toutes les nouvelles qu'ils ne veulent pas que vous sachiez ». Alors il s'agit de la criminalisation des peuples autochtones, les compagnies pétrolières, invente de nouvelles lois contre l'incitation à l'émeute. Kingston, Jamaïque, le 21 mai 2019. Les États-Unis ont entrepris de criminaliser les peuples autochtones à Standing Rock et continuent d'abroger les droits humains par une nouvelle législation. Ils prétendent protéger les peuples autochtones et soutenir la déclaration des droits des peuples autochtones des Nations Unies. Ils parlent d'une politique de consultation en accord avec les droits de l'homme, mais ne diront pas que ces droits sont abrogés ou détournés pour les profits privés de compagnies pétrolières comme ETP, Energy Transfer Partners, et TransCanada. Je suis ici, dit Michelle Cook, pour exprimer le point de vue des Autochtones sur ce que nous avons appris aux événements de Standing Rock contre l'oléoduc Dakota Access. Pour cet oléoduc de septembre 2016 à février 2017, au moins 76 services de maintien de l'ordre et 35 services fédéraux et firmes de sécurité privée embauchés par la compagnie pétrolière étaient à pied d'œuvre. Au cours de ces 7 mois, des procureurs agressifs ont condamné 841 protecteurs de l'eau qui usaient pacifiquement de leurs droits constitutionnels d'assemblée. Beaucoup de ceux qui ont été arrêtés ont été détenus dans des conditions inacceptables et maltraités. Ils ont été fouillés et déshabillés sans raison et enfermés pendant des heures dans des conditions humiliantes. Les autorités locales ont agressivement poursuivi ces 841 protecteurs de l'eau sans raison valable et sans preuve dans la grande majorité des cas. Le collectif légal des protecteurs de l'eau a entamé une poursuite collective pour les blessures infligées le 20 novembre 2017. À la suite de la répression à Standing Rock, Les intérêts pétroliers et gaziers poussent à criminaliser les protestations contre leurs projets de carburants fossiles en inventant des lois visant explicitement à protéger leurs infrastructures contre le sabotage. Actuellement, 95 lois anti-protestation sont proposées dans 35 États, y compris le Dakota du Nord. 14 d'entre elles sont passées, 24 sont encore en suspens, et 55 ont expiré ou ont été repoussées. Il y en a actuellement 28 en attente. Au Texas, la proposition 3557 ferait de certaines formes de protestation un crime de second degré, équivalent à un meurtre de second degré, c'est-à-dire meurtre par complicité ou par accident. Dans le Dakota du Sud, la loi sur l'incitation à l'émeute a créé un fonds spécial pour poursuivre les groupes qui ne se trouvent pas dans l'État, en réaction à Standing Rock. La sécurité intérieure US maltraite les Tohono O'odham dans leur propre territoire. Témoignage d'Ophelia Ribas en Jamaïque. Cité toujours par Sensors News. Kingston, le 19 mai 2019. Ophelia commence son témoignage en saluant en Jamaïque le peuple Arawak, ancêtre des autochtones de l'île. S'adressant à la Commission interaméricaine des droits de l'homme en Jamaïque, Ophelia évoque 500 ans de politique génocidaire contre les peuples autochtones menée par les gouvernements des États-Unis. Elle précise qu'elle parle en tant que descendante et témoin direct de ces pratiques de violence qui aboutissent aujourd'hui à ce que les autochtones soient constamment attaqués par les États-Unis. Retournant chez elle, Ophelia a été retardée pendant 2 jours, subissant des fouilles répétées, les autorités des États-Unis ayant mis le statut SSSS, soit Secondary Security Screening Selection, signalant une personne suspecte. Ça tamponné sur ses cartes d'embarquement de Miami à l'Arizona. Ce traitement préférentiel sera bien sûr appliqué à tous ses camarades. Cet acharnement a fait qu'elle et d'autres femmes autochtones ayant témoigné en Jamaïque ont manqué leur vol. Le voyage de Miami en Arizona, qui ne devait prendre que quelques heures en avion, a duré 2 jours. Après Tucson, il faut encore traverser plusieurs points de contrôle. Ça entraîne souvent des retards supplémentaires, surtout pour Ophelia et d'autres qui parlent aux O'odham. Ils sont souvent retenus pour une vérification supplémentaire par les agents de la patrouille des frontières US qui relèvent de la sécurité intérieure et essaient d'opprimer le plus possible les gens. Le traité de Guadalupe Hidalgo de 1848 et l'acquisition Gadsden en 1953, ont divisé son territoire d'origine entre les États-Unis et le Mexique. Ils ont déplacé les O'odham et les ont exilés. Aujourd'hui, aux États-Unis, nous existons sur 1/10 de nos territoires d'origine. Voilà, ils ont perdu les 9/10 de leur territoire. Ophelia raconte comment les territoires O'odham au Mexique avaient été perdus. Nos terres ont été volées et vendue par le gouvernement de l'État et reprise par des cartels de la drogue. Dans la nation Tohono O'odham, réserve dirigée par le conseil tribal dans le sud de l'Arizona, l'impact le plus récent a été la militarisation de nos territoires après le 11 septembre 2001. Des lois racistes et inhumaines comme le Patriot Act et des lois sur l'immigration ont conduit à des maltraitances constantes des Tohono O'odham. Maintenant, des gens sont attaqués avec des chiens. Leurs domiciles sont envahis et ils sont détenus dans leur propre maison avec leurs enfants. Les gens sont attaqués par des militaires armés et détenus sans raison. La sécurité intérieure des États-Unis a criminalisé les Tohono O'odham et leur territoire est militarisé, tout comme à Standing Rock. Ophelia a été témoin de comment les anciens O'odham de plus de 80 ans, avait été mis à genoux près de la route, les bras en l'air, parce qu'ils n'avaient pas compris comment prouver leur citoyenneté. Ils parlent leur propre langue et ne comprennent pas les ordres de parler anglais ou espagnol, explique-t-elle. L'intention des États-Unis est d'éradiquer les gens dits « inférieurs » par leur politique génocidaire et d'appliquer leur politique de « destinée manifeste », celle qui prétend au destin civilisateur des USA. Comme le monde entier avait pu le voir lors de l'attaque des protecteurs de l'eau à Standing Rock. Pour conclure, Ophélia dit « Je prie ?» Où je parle, c'est un des problèmes de traduction que j'évoquais tout à l'heure, pour que tous les animaux, les plantes, les êtres vivants soient reconnus et protégés. Ici, quand on dit « je vous en prie », quand quelqu'un attend pour passer devant quelqu'un d'autre ou après, mais ça n'a rien d'une prière. Mais dans la langue autochtones, je crois que ça a une signification beaucoup plus riche. Mais on peut dire aussi « je parle ». Est-ce que la traductrice a fait le choix qui s'imposait ? Je n'en sais rien. Mais on peut dire « je parle pour que tous les animaux, les plantes et les êtres vivants soient reconnus ». C'est-à-dire qu'on peut dire « je parle à la place de tous les animaux, les plantes, etc. ». Je prie ou je parle. Choisissez le terme que vous préférez. De toute façon, ça veut dire la même chose dans ce cas. La délégation de femmes autochtones a témoigné à Kingston, à l'Université des Indes occidentales. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a entendu des témoignages de l'ensemble des Amériques. Et on découvre maintenant Red Fawn Follis, militante de « L'eau, c'est la vie ». La Commission interaméricaine des droits de l'homme entend des témoignages sur les prisonniers politiques de North Dakota Access Pipeline et une déclaration de Red Fawn. La seule arme à feu dans le camp avait été apportée par Heath Harmon, indicateur du FBI. Et on a voulu coller ça sur le dos de Red Fawn, évidemment. Témoignage de Leolia Cowboy de la Nation Diné. À Kingston. En hommage aux prisonniers politiques qui avaient résisté pour protéger l'eau au cours du mouvement contre le Dakota Access Pipeline à Standing Rock, Leolia Cowboy Diné a récité leur nom au cours d'une audience de la Commission interaméricaine des droits de l'homme en Jamaïque. Je suis venue ici pour servir de voix aux prisonniers politiques de nos DAPL parce qu'ils sont emprisonnés et que je les considère tous comme membres de ma famille, dit Leolia à la commission. En évoquant les noms de Red Fawn Follis, Michael Little Feather Giron, Michael Rattle Marcus, Diane Ortiz et James Angry Bird White, Leolia souligna qu'ils risquaient des condamnations fédérales très lourdes pour avoir protégé l'eau en 2016 et 2017. Je suis fière d'être l'épouse du prisonnier politique Little Feather Giron, dit Leolia à propos de son mari, qui est de la nation Chumash. Leolia expliqua que ses 5 protecteurs et protectrices de l'eau n'avaient pas eu d'autre choix que d'accepter un accord après que leurs droits aient été niés par des tribunaux fédéraux. Leolia rappelle à la commission que ses protecteurs de l'eau s'étaient vus dénier les droits fondamentaux et que le jury était influencé par la propagande en faveur des compagnies pétrolières dans le Dakota Nord. À cause de cette injustice, Red Fawn, la militante Sioux de la tribu Oglala, risquait la perpétuité et les autres chacun 15 ans, dit Leolia, et ses protecteurs de l'eau ont été emprisonnés loin de leur famille. Leolia lut une déclaration de Red Fawn qui risquait la perpétuité et avait été arrêtée 3 fois à Standing Rock. Alors elle ne faisait qu'exercer son droit à la liberté de parole contre le Dakota Access Pipeline. La deuxième fois, elle attachait des liens de prière à une clôture. Puis en octobre, dit Red Fawn, j'ai été attaquée par derrière et arrêtée brutalement sans raison plausible, accusé d'avoir une arme à feu. Red Fawn raconte comment le FBI avait placé un indicateur dans le camp et des conséquences. Red Fawn conclut « Nous comprenons notre relation réciproque avec l'eau et toute la vie qui en dépend. L'eau, c'est la vie. » Elle a été condamnée à 5 ans de prison. Après avoir décrit les actions pacifiques des protecteurs de l'eau et les arrestations en masse, Red Fawn rendit hommage à la mémoire et au travail de sa mère, Troy Lynn Starr Yellowwood, passée dans le monde spirituel. Au camp d'Ossetie Sakowin, à Standing Rock, Red Fawn dit avoir trouvé la place où elle se sentait chez elle. Elle y travaillait avec des personnes âgées et des jeunes au camp d'Ossetie Sakowin et y avait été formée comme aide-soignante. Au cours des témoignages sur la criminalisation des peuples autochtones par le gouvernement, le témoignage de Leolia a rejoint ceux des protectrices de l'eau Kese Camp Orinek, Ponca, et de Michelle Cook, Diné, et d'Ophelia Rivas, To'ono, Odo, Dam. Victime de violences à Standing Rock, empoisonnée par les industries minières, Kese Camp, Ponca, témoigne en Jamaïque. Membre élu du conseil tribal Ponca, Kese est gardienne du tambour héréditaire de la Société des femmes. Dans ses salutations, elle remercie les Arawak, ancêtres des Jamaïcains, puis raconte comme elle-même et d'autres protecteurs de l'eau ont subi des violences à Standing Rock. Il y avait des hélicoptères, des avions, des drones, des gens armés, des canons assourdissants, des grenades à percussion, du gaz poivré, des centaines d'agents en tenue d'émeute qui se ruaient sur nous et commencèrent à nous brutaliser. Ils nous ont frappés au sol, alors que nous étions en train de prier, par centaines d'enfants, de femmes et d'hommes sans armes. Ils nous ont attachés, ils nous ont jetés au sol et traînés dans des bus jusqu'à la cave de la prison du comté de Morton et enfermés dans des chenils après avoir inscrit des numéros sur nos bras, comme pour les Juifs, emmenés dans les chambres à gaz. Ils nous ont gardés dans des chenils à même le sol en béton. C'était mon numéro, le numéro 138, dit-elle en montrant le numéro sur son bras. En tout, 142 personnes ont été arrêtées ce jour-là. Kese a évoqué la fracturation hydraulique génocidaire et l'industrie du pétrole et du gaz qui empoisonne son peuple, le sol, l'air et l'eau. Kese parla aussi de son grand-père, qui avait marché tout au long de la piste des larmes. À 8 ans, il avait fait plus de 1 000 kilomètres à pied. Un des membres de son peuple, sur 3, mourut durant cette marche. Le territoire Ponca avait été volé par le gouvernement fédéral selon le traité de 1868. Le peuple de Kese, les Ponca, était de la région du fleuve Missouri et a été déporté de force en Oklahoma. Nous vivons maintenant dans une zone entièrement affectée par les industries minières, dit-elle des terres Ponca en Oklahoma. Évoquant les conséquences de la fracturation, Kese dénonce 10 000 tremblements de terre en Oklahoma depuis 5 ans. Tremblements de terre causés par l'homme, par les industries minières, dont la raffinerie Phillips 66. L'eau a été empoisonnée. Tous les êtres à 4 pattes, à nageoires ou ailés, et tous ceux qui vivent sous terre ont été touchés. On ne peut pas cultiver de produits bio dans un rayon de plus de 12 kilomètres. Chaque famille a des membres souffrant de cancer et de déficience immunitaire. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas jusqu'à la naissance. Transformer en marchandise tout ce qui est sacré est un crime, dit-elle à la commission. La nation Ponca a établi un statut de droit de la nature, ce qui permettra de traiter les affaires devant les tribunaux. Nous convoquerons des gens devant le tribunal Ponca. Le 27 octobre 2016, des protecteurs de l'eau protégeaient le camp du traité. Standing Rock, c'était nos alliés. L'oléoduc Dakota Access Pipeline n'avait pas été autorisé à passer par une région blanche au nord de Standing Rock. Et une interview d'Ophélia Rivas sur les femmes autochtones de retour de Jamaïque. Tucson, Arizona. La militarisation de Standing Rock ne diffère pas de celle qui règne à la frontière sud sur le territoire de la nation Tohono-O'odham. À l'audience sur les droits de l'homme en Jamaïque, Ophélia Rivas explique la militarisation et la tentative de déshumaniser les gens menée par le gouvernement des États-Unis. Ophélia faisait partie d'une délégation de femmes autochtones qui témoignaient sur la criminalisation des autochtones. Michelle Cook et Leolia Cowboy, Diné, et Kaze Camp Orinek, Ponca, ont témoigné en Jamaïque. Elles ont évoqué les violations commises par la police à Standing Rock et le sort de tous ceux qui maintenant souffrent encore parce qu'ils protègent l'eau. Ce que j'ai souligné là-bas, c'était l'état d'esprit du gouvernement des États-Unis, dit Ophélia Rivas, parlant du racisme. Nous sommes sous surveillance en permanence. Cette politique inhumaine signifie que nous ne sommes pas traités comme égaux en tant qu'êtres humains. Ophélia Rivas ajoute que des militaires lourdement armés interrogent nos anciens, qui ne parlent ni anglais ni espagnol, mais seulement O'odham. La compagnie Elbit System d'Israël, qui équipe les territoires autochtones en tours de surveillance, est la même compagnie qui opprime le peuple de Palestine. Ophélia fait remarquer que le ciblage et les retards pour rentrer chez soi étaient le type de harcèlement que les Palestiniens et les Autochtones subissent partout dans le monde. Nous avons survécu depuis 500 ans à ce type d'attaque contre nos vies. Nous survivrons à ces attaques-ci aussi. J'ai l'impression que ce qui s'est passé à Standing Rock a ouvert les yeux du monde sur la politique génocidaire des États-Unis dans le pays qu'ils appellent le plus grand pays du monde. Cette attitude flagrante des États-Unis à l'égard des droits des peuples autochtones était évidente à l'audience où les États-Unis ont manqué de respect envers les membres de la commission. Ophélia souligne, pendant l'audience, que la délégation de l'ambassade des États-Unis et du département d'État Affaires étrangères avait dit à la commission qu'elle était incompétente et que les États-Unis n'avaient pas à se soumettre à ces lois. Des lois qui gouvernent le monde, dit Ophélia. Malgré les tentatives des États-Unis de convaincre les gens que des terroristes pourraient entrer par la frontière sud, Ophélia rappelle que des enquêtes ont prouvé le contraire. Et dans l'interview de Govinda Dalton, elle parle des femmes disparues ou assassinées aux États-Unis et au Canada. Une délégation de femmes autochtones des États-Unis parle. Elle dénonce les violations des droits commises à Standing Rock contre les protecteurs de l'eau et celles commises à la frontière US-Mexique par la patrouille des frontières. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a entendu le témoignage de Leola Cowboy de la Nation Diné et la délégation des femmes autochtones a apporté un témoignage impressionnant sur les violations des droits par la police et la criminalisation des protecteurs de l'eau. Kaysé Camp, membre du conseil tribal Ponca, a décrit les souffrances et les désespoirs créés par les industries minières. L'eau a été empoisonnée par les industries minières et le commerce du carbone, et des tremblements de terre sont causés par l'industrie minière en Oklahoma, a-t-elle déclaré à la commission. Kaysé a raconté comment les enfants diabétiques se sont vus refuser les médicaments et ont eu des crises. Ophélia Rivas, Oodham, fondatrice des Voix Oodham contre le mur, a dénoncé les violations des droits des Tohono O'odham à la frontière, sur un territoire souverain. Ophélia a raconté comment elle-même et d'autres avaient été brutalisées et terrorisées par la patrouille des frontières dans leur propre communauté. Elle a parlé d'attaques de O'odham par des chiens et de détentions arbitraires. Les Tohono O'odham ont été criminalisés par la sécurité intérieure des États-Unis, dit-elle à la commission. Ophélia raconta aussi comment les territoires Oodham au Mexique avaient été volés, vendus et réappropriés par les cartels de la drogue. Michelle Cook, avocate d'Iné et membre fondatrice du collectif légal des protecteurs de l'eau, a décrit la criminalisation des protecteurs pacifiques de l'eau. Michelle a décrit les actions des États-Unis visant à criminaliser les protecteurs de l'eau et produisant de nouvelles lois d'État suite aux actions de protection de l'eau à Standing Rock. Des manifestants pacifiques tombent maintenant sous le coup de ces nouvelles lois de l'État. La nouvelle législation du Dakota du Sud criminalise les activistes pacifiques et leurs alliés, maintenant qualifiés de promoteurs d'émeutes. Au Texas, la nouvelle législation pourrait conduire à des accusations de crimes pour ceux qui mettent en pratique la liberté de parole. Michel rappelle à la commission que le collectif légal des protecteurs de l'eau avait engagé une poursuite, class action, une procédure collective beaucoup discutée en France, mais pas encore adoptée. Poursuite contre les violations commises par la police à Standing Rock. Michelle est cofondatrice de Désinvestir, Investir et Protéger, qui soutient la délégation de femmes à l'audience de la commission. En réponse aux questions de la commission, Leolia dit que Little Feather, petite plume, avait subi 14 enfermements, sa famille ne pouvant pas prendre contact avec lui pendant tout ce temps. Nous ne savons pas s'il est encore en vie. » Kézé dit qu'elle-même et d'autres autochtones âgés souffraient toujours des blessures causées par les arrestations et emprisonnements par le service du shérif du comté de Morton, Dakota du Sud, et par la police et les militaires qui ont commis ces violations des droits de l'homme à Standing Rock. Nous souffrons toutes de syndromes post-traumatiques. Les États-Unis ont envoyé des officiels de l'ambassade des États-Unis et du ministère des Affaires étrangères à Washington et en Jamaïque pour réagir au cours de l'audience d'une heure tenue à l'Université des Indes occidentales. Malgré une tentative ratée de présenter les États-Unis comme un pays respectant le droit, les représentants officiels des États-Unis n'ont pas été capables de présenter un témoignage qui pourrait justifier les violations des droits par la police et les militaires américains, ni les injustices commises par les tribunaux américains. Les États-Unis ont bien rapporté l'action en justice contre des mercenaires privés de Tiger Swan qui ont agi dans le Dakota du Nord sans licence. Les représentants officiels ont affirmé que les États-Unis honorent et respectent la souveraineté tribale, mais les protecteurs de l'eau ont souligné que les actes des États-Unis prouvent le contraire. Après la Commission interaméricaine des droits de l'homme en Jamaïque, Leona Morgan de la Nation Diné témoigne à Bettencourt-la-Ferré, en France, dans la Meuse, le 24 mai 2019, sur les activités et catastrophes minières et l'uranium nucléaire. Nucléarisation d'un territoire et des peuples autochtones. Avec le CSIA Nitassinan, c'est-à-dire le Comité de solidarité avec les peuples autochtones des Amériques, et avec notre CEDRA français de la Meuse, le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, Nature Environnement aussi, et le réseau Sortir du nucléaire, dont on vous parle si souvent. Leona Morgan est une organisatrice communautaire autochtone et une activiste en lutte depuis 2007, contre le colonialisme nucléaire dans le sud-ouest des États-Unis. Ses principaux objectifs sont d'empêcher l'ouverture de nouvelles mines d'uranium et de nouvelles décharges nucléaires, ainsi que de lutter contre le transport de matériaux radioactifs. Leona Morgan a cofondé et travaille avec le Diné No Nukes, groupe anti-nucléaire. Diné. Avec Radiation Monitoring Project et Nuclear Issues Study Group. Je vous mettrai les liens correspondants. Elle collabore également avec des groupes et activistes anti-extractivistes et anti-nucléaires à l'international en organisant des rassemblements dans le but de faire face au cycle complet de l'énergie nucléaire. Leona est de la Nation Diné. Elle vit à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. À l'occasion d'une tournée en Europe qui l'a menée jusqu'au Forum social antinucléaire à Madrid, Leona est passée en Meuse et en Haute-Marne, où elle a notamment donné une conférence à Bettencourt-la-Ferré. Elle y a abordé les sujets de la nucléarisation du Nouveau-Mexique, de la résistance à cette nucléarisation, de la problématique des peuples autochtones face au nucléaire et des journées d'action à venir et des outils de mesure des risques radioactifs. On se sent moins seul, vous trouvez pas? Nous reviendrons bientôt sur l'hypernucléarisation de la France, sujet hélas inépuisable. Merci à vous tous de votre écoute. Prenez soin de vous. Et à samedi prochain.
Madame la République française qui répondra de ses doléances, je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Et la justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française qui répondra de ses doléances, je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds. Et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française qui répondra de ses doléances, je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen.